Bonsoir. Plusieurs personnalités congolaises, dont le président de la CENI et son adjoint, le président de la Cour constitutionnelle et l'ancien président de l'Assemblée nationale de la dernière législature, sont interdites de séjour aux États-Unis. Elles sont accusées d'être impliquées dans une corruption importante liée au processus électoral. Ces sanctions ont été annoncées dans un communiqué publié vendredi dernier par le département d'État américain. Quelle lecture faire de ces nouvelles sanctions des États-Unis? C'est le thème de dialogue entre un Congolais de ce lundi 25 février 2019. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Maître Aimé Kilolo, avocat et expert en droit international. Maître Kilolo, bonsoir. Maître Kilolo, est-ce que vous êtes en ligne? Apparemment, on a un petit souci avec...
Je confirme.
Voilà, bonsoir.
Je confirme que je suis en ligne.
D'accord, merci. Maître Georges Kapiamba, président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, il est avec moi dans ce studio. Maître Georges Kapiamba, bonsoir.
Bonsoir.
Et le professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique. Il est aussi coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Professeur Bob Kabamba, bonsoir.
Et auditeur de Radio TV.
Merci de nous suivre à Kananga, dans la province du Kasaï Central, voilà, sur la 93.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Les États-Unis ont sanctionné 5 personnalités des 3 institutions de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué publié vendredi 22 février dernier, le département d'État indique que ces sanctions concernent la restriction des visas. Les détails avec vous, Dona Madimba.
Corneille Nanga, président de la CENI, et son vice-président Norbert Basengezi, ainsi que Marcelo Mukoko Basengezi, conseiller du président de la CENI, viennent d'être frappés par des sanctions des États-Unis. À partir de mercredi dernier, ils sont interdits de se rendre dans ce pays, une décision du département d'État américain qui les accuse d'être impliqués dans une corruption importante liée au processus électoral en RDC. Pour les États-Unis, ces personnes se sont enrichies par la corruption ou ont dirigé ou supervisé des actes de violence à l'encontre des personnes qui exercent leur droit de réunion pacifique et leur liberté d'expression. Ces restrictions américaines de visa touchent aussi Aubin Mina Kunjalanjoko, ancien président de l'Assemblée nationale, et Benoît Luamba Bindou, président de la Cour constitutionnelle. Le département d'État précise que cette décision ne concerne pas le peuple congolais ni son gouvernement nouvellement élu. De son côté, la CENI a réagi et rejette ces accusations orientées contre ses responsables. Selon son porte-parole, la CENI poursuit sa mission de conduire le processus électoral en RDC. Jean-Pierre Kalamba annonce qu'une délégation est en mission d'évaluation à Beni et à Butembo. Un rapport du processus électoral congolais est en élaboration et sera disponible après sa présentation à l'Assemblée nationale.
Merci Dona Madimba pour tous ces détails. Maître Aimé Kilolo, vous êtes avocat et expert en droit international. Quelle lecture vous faites de ces nouvelles sanctions des États-Unis d'Amérique contre certaines personnalités de la République démocratique du Congo?
Bien, il faut simplement observer aujourd'hui que il n'existe pas sur le plan du droit international une convention qui régisse la matière. Ces pressions politiques qui sont appelées sanctions par les États-Unis procèdent de l'exécution des lois internes nationales américaines et qui donc n'ont pas directement force contraignante sur l'espace de la République démocratique du Congo. En deux termes clairs, ça veut dire tout simplement que lorsque une décision d'interdiction de voyager ou même de gel des avoirs est prise par les autorités américaines, à la limite, ça ne concerne que des autorités qui détiendrait des propriétés immobilières, de comptes en banque ou qui ont l'habitude de voyager régulièrement vers ce pays. Et il me semble que in concreto, ces décisions, ces sanctions américaines sont lettres mortes parce qu'elles s'adressent à des personnalités qui n'ont aucun centre d'intérêt sur le territoire des États-Unis. Sur le principe, il faut aussi dire que d'un point de vue de l'équité, d'un point de vue de la justice, ça pose véritablement un problème parce que ça met à mal les grands principes de droit dans la mesure où on impute finalement des faits gravissimes à des personnalités sans qu'il n'y ait eu la moindre instruction, sans qu'il n'y ait eu une possibilité d'un débat contradictoire autour de ces allégations d'entrave à la démocratie ou des violations de droits de l'homme. Donc c'est véritablement, effectivement, un système qui a été mis en place dans le simple but d'exercer des pressions politiques et diplomatiques sur des régimes, des États étrangers qui, finalement, ne rencontrent pas les intérêts de la politique étrangère des États-Unis ou même de l'Union européenne, selon le cas. Ça veut donc dire qu'il ne s'agit pas là des mesures qui sont prises dans les buts de protéger la population congolaise. Bien au contraire, un certain nombre d'analystes s'accordent à considérer que l'objectif ici est d'imposer sur le territoire de la République démocratique du Congo des autorités qui ne seraient pas l'émanation de l'exercice de la souveraineté par le peuple, mais plutôt des autorités choisies, désignées, préférées par les puissances occidentales.
Selon ce communiqué,
pour mieux remplir leurs intérêts économiques.
Selon ce communiqué, Maître Aimé Kilolo, le département d'État américain dit que ces sanctions ne concernent pas le nouveau gouvernement, mais plutôt les personnalités qu'on a nommément citées dans le communiqué. Et ça n'a rien à voir avec la population congolaise.
Mais c'est assez contradictoire, parce que lorsque les États-Unis parlent de gouvernement élu, déjà vous savez qu'en réalité, le gouvernement est toujours issu des élections, donc en réalité, ça vise, lorsque l'on cite une personnalité comme l'honorable Obaminaku, qui vient d'être élu par le peuple congolais pour le représenter au sein du Parlement, on ne peut donc pas dire que ça ne viserait pas les nouvelles autorités, parce qu'en tant que tel, il est une nouvelle, il fait partie en tout cas de ces nouvelles autorités qui sont issues des élections actuellement dans le cadre d'une majorité parlementaire écrasante, et donc il fait partie en tout cas de ces nouvelles personnalités à qui le peuple congolais a largement fait confiance à travers sa plateforme politique qui est le Front commun pour le Congo.
Vous estimez donc, Maître Kilolo, que ces sanctions n'auront aucun impact sur ces personnalités ou même sur la vie politique de la RDC?
Je dirais qu'il s'agit là véritablement des sanctions qui sont beaucoup plus virtuelles, parce qu'il est concreto. Elles n'atteignent pas leur objectif. L'objectif ici, c'est de tenter de décrédibiliser les personnalités qui sont visées, d'abord vis-à-vis de l'opinion nationale, mais là, il faut reconnaître que le peuple congolais est largement indifférent aux sanctions américaines, dans la mesure où, finalement, elles n'ont pour seule finalité que de servir les intérêts économiques américains. Du point de vue fonctionnel, admettons qu'une des personnalités sanctionnées soit nommée animateur du gouvernement ou tout simplement chef de corps d'une institution, en tout cas, il va de soi que dans la pratique administrative aux États-Unis, même avec l'interdiction de visa, lorsque l'on exerce une fonction publique de représentation de l'État, et qu'il y a donc un sommet international qui se tient, les États-Unis font exception à cette sanction qui finalement
merci,
n'a pas
maître... été faite. Kilolo, on vous redonne la parole tout à l'heure. Maître Georges Kapiamba, président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, à CAJE en sigle. Vous saluez plutôt ces nouvelles sanctions des États-Unis.
Exact.
Pourquoi?
Alors, au nom de mon organisation à CAJE, nous avons effectivement salué ces sanctions parce que, à notre avis, ce sont des sanctions qui permettent au moins de pallier à la carence constatée dans notre pays par rapport aux activités judiciaires qui, en réalité, auraient dû prendre en compte les communiqués de presse, les déclarations des acteurs de la société civile, mais aussi les déclarations des politiques qui ont eu à fustiger, à dénoncer certains actes commis ou posés par certains officiels, certains responsables, lesquels actes ont eu comme impact c'est de porter atteinte soit à l'organisation convenable du processus électoral, soit que ce sont des actes qui ont contribué à accroître la répression politique contre des opposants ou des membres de la société civile, ou ce sont des actes qui ont encouragé cette répression. Et il y a aussi des actes posés par certains officiels parmi ceux qui sont concernés ici, qui sont allés dans le sens de subtiliser les moyens financiers de l'État. De la caisse de l'État, du
trésor public. Est-ce qu'il y a des preuves?
Oui, bon, s'il faut parler de preuves, ça c'est à d'autres niveaux qu'il faut en parler, mais vous ne pouvez pas quand même douter de la capacité du département d'État et du département des trésors à pouvoir prendre ce genre de sanctions.
Maître Kilolo l'a dit, il n'y a pas eu d'instruction, il n'y a pas eu de débat contradictoire.
Je vais y arriver.
Du coup, on sanctionne une personnalité comme ça.
Je vais y arriver, mais je voudrais, avant de répondre, dénuancer ce que Maître Kilolo a dit, mentionner le fait que lorsque vous êtes un responsable politique, élu soit-il, vous dirigez une institution qui est censée faire asseoir la démocratie par l'organisation des débats, comme par exemple l'Assemblée nationale, et qu'à l'occasion de ses fonctions, vous faites influencer des lois, scélérates, des lois liberticides qui vont à l'encontre des principes d'équité qui doivent assurer toutes les parties dans une situation démocratique de prendre part à la vie de la nation, je crois que ce sont des actes qui portent atteinte à la démocratie. C'est important que les gens le sachent parce que il y a eu tout un tas de choses qui ont été négligées, mais qui en réalité étaient sérieusement graves. Et aussi, lorsque vous êtes un dirigeant, vous vous servez de l'argent mis à votre disposition pour vous acheter des immeubles et que cela est connu de plusieurs personnes, vous appauvrissez les trésors publics, vous portez atteinte même à l'organisation transparente d'un processus électoral. Toutes ces choses-là, c'est pas le moment d'en parler, mais je crois que c'était quand même utile de les mentionner. Par rapport à ce que Maître Aimé Kilolo a dit, c'est vrai qu'on peut, le débat peut être organisé autour du caractère contradictoire ou pas de ces décisions. Est-ce que ce sont des sanctions qui ont respecté les principes d'un procès équitable? Ça, c'était un autre débat. Mais j'ai noté qu'il a reconnu qu'il s'agit de sanctions à caractère politique et diplomatique qui obéissent aussi à d'autres principes. Alors, lorsqu'il parle, par exemple, il dit que ce sont des pressions exercées sur des États ou des gouvernements pour s'effrayer des dirigeants qui répondraient aux intérêts de ceux qui les prennent. Je crois qu'il faut nuancer parce que, comme vous l'avez dit, si tel était le cas, les États-Unis n'allaient pas, les départements d'État n'allaient pas faire la nuance en parlant, en disant que ce sont des sanctions individuelles qui visent des individus à cause des actes qu'ils ont posés à titre individuel, mais lesquels actes ont eu à porter atteinte soit aux droits des autres ou aux principes de la démocratie.
Au processus électoral. Mais est-ce que ce n'est pas contradictoire comme l'a dit Maître Kilolo, on va prendre le cas du président de la CENI, Monsieur Nanga et son vice, qui ont organisé les élections. Ils sont sanctionnés, mais à l'issue des élections, il y a eu quand même quelqu'un qui a été élu. Pourquoi on sanctionne c'est les organisateurs et non les bénéficiaires de ces élections.
Non, le problème c'est celui-là. Je crois que les gens font une très mauvaise lecture, une lecture fragmentaire du communiqué du département d'État. Les communiqués parlent de personnes sanctionnées, soit parce qu'elles se sont enrichies en utilisant les moyens de l'État à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Ça veut tout simplement dire, je ne dis pas que c'est ça ce qui peut motiver ces sanctions contre, par exemple, les deux responsables de la CENI, mais je m'imagine qu'il peut, au niveau du département d'État, exister des éléments pouvant démontrer ou attester clairement que ces personnalités auraient mis la main sur les moyens financiers ou logistiques mis à leur disposition pour organiser de manière transparente les élections et que, en les faisant, ils ont dû provoquer un dysfonctionnement du processus lui-même. Mais ça fait partie des actes de corruption. Il ne faudrait pas que les gens les minimisent. S'ils n'ont pas eu à respecter, par exemple, les règles de procédure pour la passation des marchés publics et que cela a pu leur profiter d'une manière ou d'une autre et que ça enrichit leur patrimoine et en appauvrissant les patrimoines, les trésors publics. Mais c'est tout à fait normal. Donc, il faudrait qu'on soit plus prudent pour, avant de mettre ces jugements, aller jusqu'à savoir quels peuvent être les actes. Mais je voudrais aborder un élément,
rapidement,
citer peut-être par là. Lorsque Maître dit que ce sont des sanctions qui n'intéressent pas le peuple congolais, je crois que c'est trop péremptoire, ça, comme déclaration. Je crois qu'aujourd'hui, lorsque vous parlez avec beaucoup de gens, il y a la majorité qui pense que ceux qui ne pouvaient pas être sanctionnés sur le plan local parce que bénéficiant de l'autoprotection politique peuvent le faire aussi à d'autres instances et c'est une bonne chose.
Merci Maître Georges Kapiamba, professeur Bob Kiabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique. Vous êtes aussi coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Professeur, quelle est votre analyse de ces nouvelles sanctions des États-Unis?
Oui, donc il faut se mettre d'abord dans le contexte. De manière très claire, il faut savoir que la politique de sanctions fait partie de l'arsenal diplomatique que d'où jouit tout un pays et tout un chacun. La RDC elle-même a déjà pris des sanctions vis-à-vis d'autres pays, pour ne pas citer par exemple le cas de la Belgique. Et donc c'est vraiment des outils qui sont à disposition par rapport à un État pour arriver à un objectif. Dans le cas présent ici, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que ça vise de manière très claire son ambiguïté et ça pose quand même toute une série de questions, notamment par rapport à ce qui est reproché à cette personne, à savoir l'ancien président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour constitutionnelle et aussi l'organe chargé de l'organisation des élections. C'est un symbole, c'est-à-dire tout simplement que par rapport aux États-Unis, par rapport à ces sanctions, c'est aussi un acte politique, c'est aussi un acte politique. C'est-à-dire que de manière sans ambiguïté, que les États-Unis, de manière claire, pointent du doigt la problématique liée à l'Assemblée nationale par rapport à la Cour constitutionnelle et par rapport à la CENI. Et que lorsqu'on lit le communiqué de manière claire, il parle exactement de corruption liée au processus électoral. Ça veut dire que ce sont des gens qui se sont enrichis sur le processus électoral. Donc, qu'il y a eu détournement de fonds, et ils disent de manière claire dans le communiqué qu'il y a des indices sérieux qui accréditent cette thèse. Normalement, lorsque l'on a effectivement dans un pays normalement constitué dans un état de droit où il y a quand même la justice qui fonctionne à minima, lorsqu'il y a de tels communiqués et de telles sanctions qui sont prises vis-à-vis des personnalités, normalement la justice congolaise devait se saisir de ce dossier pour aller voir effectivement est-ce que le président de l'Assemblée nationale, le président du CENI ainsi que le vice-président, ainsi que le conseiller de la CENI, ainsi que le président de la Cour constitutionnelle, est-ce qu'ont-ils été corrompus dans le cadre du processus électoral. La justice congolaise devait se saisir de la question et demander aux États-Unis de lui fournir les éléments sur lesquels les États-Unis se basent pour pouvoir prendre ces sanctions. Et en fonction de l'enquête, de l'information judiciaire que peut initier le procureur de la République en RDC, peut amener à des conclusions, conclusions qui peuvent accréditer qu'effectivement ces personnalités ont été impliquées dans des cas de corruption, ou bien arriver à dire, ben oui, ces personnalités n'ont pas été impliquées dans des cas de corruption. Alors à ce moment-là, et si, quelle que soit la décision qui pourrait sortir, les personnes qui sont visées par les sanctions peuvent aller aux États-Unis en disant, mais voilà, nous avons été accusés injustement par l'administration américaine, nous demandons la levée de ces sanctions. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsque l'on prend de telles sanctions, pour pouvoir sortir ces personnes de la liste des sanctions, c'est une autre démarche, et aussi c'est une démarche très, très, très laborieuse. Et aussi, je voudrais quand même terminer sur cette prise de parole que vous m'accordez maintenant, c'est aussi quand même un signal que les États-Unis essayent quand même de marquer et d'envoyer par rapport à ce qu'eux-mêmes ils disent, le soutien au nouveau président Félix Tshisekedi. C'est-à-dire qu'ils sanctionnent tous ceux qui ont été impliqués de manière claire dans le processus électoral qui a abouti au résultat qui a été contesté par les uns et les autres, qui a donné des résultats que beaucoup n'ont pas acceptés. Et donc c'est aussi un démenti, voire même un désaveu par rapport aux autorités qui ont organisé le processus électoral, c'est-à-dire la CENI, et aussi ceux qui ont dû trancher les cas de litige, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, mais aussi l'élément politique en plus, qui est le président de l'Assemblée nationale, l'ancien président de l'Assemblée nationale, qu'il ne faut pas oublier, et le coordonnateur de la majorité présidentielle. Donc, de manière très claire, il s'agit d'un signal quand même très fort que les États-Unis essayent de montrer pour le peuple congolais en disant, mais oui, il y a eu ce qu'il y a eu, mais nous n'oublions pas, nous sanctionnons et nous allégeons la tâche à Félix Tshisekedi, le futur président, pour que, en démontrant de manière claire que nous sanctionnons ceux qui sont responsables de toute une série de mégestions et de méfaits au préjudice du peuple congolais. Et alors, sur ce point-là, le communiqué est très clair en disant on fait la part des choses entre le peuple congolais et ces personnalités qui sont sanctionnées.
Professeur, il y a certains politiques et même certains analystes qui pensent que les États-Unis ont violé ces sanctions ciblées des États-Unis violent le droit international.
Mais non, ils ne violent pas le droit international. Ils ne violent pas l'international parce qu'ils le prennent sur base des dispositions qui existent au niveau des États-Unis. Mais il est un fait que les décisions qui sont prises au niveau des États-Unis ont une répercussion au niveau international. Je m'explique. C'est-à-dire que lorsque on vous interdit effectivement de pouvoir avoir accès au territoire européen ou bien même au territoire américain, il faut se rendre compte que les présidents de la CENI, son vice-président ainsi que l'Assemblée nationale, etc., ne pourront pas, par exemple, assister à toute une série de réunions qui pourraient se passer aux États-Unis ou à New York dans le cadre de Nations Unies, puisque pour avoir ça, il faut avoir un visa pour aller aux États-Unis. Par ailleurs aussi, ce qu'il faut souligner, que lorsque ces sanctions sont prises, il y a toujours une répercussion, non seulement au niveau international, mais aussi au niveau national. C'est-à-dire que lorsque l'on est sanctionné, aussi bien en disant qu'il y a sanction de biens, etc., 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 l'on pense qu'on n'a pas de biens, que ça ne sert à rien ces sanctions, mais non. Ça veut dire tout simplement aussi que toutes les institutions qui travaillent avec les États-Unis ou bien avec l'Europe, dans les cas de l'Europe, ne doivent plus collaborer avec la personne qui a été sanctionnée. C'est-à-dire, lorsque vous avez, vous, par exemple, madame, vous avez un compte en banque, à votre banque, où la Radio Capi vous paye votre salaire, et que si cette institution bancaire a des liens avec les États-Unis, a des liens avec l'Union européenne, vous devez savoir que l'institution bancaire va vous demander de quitter sa banque. Vous allez vous retrouver sans banque, sans carte de crédit, sans carte de bancaire, vous allez être hors du système. Donc il y a effectivement, de manière claire, les sanctions qui sont prises ont des effets au niveau local, ont des effets au niveau même de la gestion politique de ces personnes. Quelle est la crédibilité maintenant que va avoir le président de la CENI vis-à-vis au niveau international en ayant sur son pied un boulet de corruption tel que les États-Unis l'ont dit? Quel crédit va avoir Obaminaku au niveau international en sachant qu'il est accusé de corruption dans le processus électoral? La même chose pour le président de la Cour constitutionnelle qui est le représentant quand même, il faut le savoir, de la plus haute juridiction corruption de la RDC est accusée de corruption par les États-Unis et cette cour institutionnelle, est membre d'un réseau Merci. Africain et même membre d'un réseau mondial. Comment voulez-vous que cette personne puisse arriver à avoir une crédibilité au niveau international? Donc les sanctions ont véritablement un impact aussi bien local qu'international.
Merci professeur Bob Kiabamba. Maître Emeki Lolo, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani.
Mabella Bidia, je vous appelle depuis Kisangani. Il est de notoriété publique que le processus électoral n'a pas été crédible, démocratique et transparent. De la promulgation de la loi électorale et du calendrier électoral à la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle en passant par l'utilisation très contestée de la machine à voter. De ce cirque électoral, il y a des responsabilités qui incombent au gouvernement, au Parlement, à la CENI et à la Cour constitutionnelle. C'est dans cette logique que les États-Unis d'Amérique ont identifié des acteurs qui ont contribué à cette mascarade électorale afin de les sanctionner. Par ailleurs, la liste n'est pas exhaustive. Il y a des personnalités, des acteurs clés et fondamentaux qui ont vicié ce processus et qui ne sont pas repris sur la liste, à l'instar du président sortant, qui, à mon avis, est au cœur même du problème. Il est responsable pour beaucoup, d'abord, du report des élections qui auraient pu se tenir des ans avant, ensuite de la fraude massive qui a entaché les résultats de ces élections. Donc, à mon avis, ces sanctions faites à la géométrie variable n'ont pas été ni à la hauteur du mal causé, encore moins de la réparation du préjudice.
Maître Emeki Lolo.
Je voudrais surtout rappeler ici que la CENI est une institution d'appui à la démocratie qui a à son sein une assemblée plénière qui prend toutes les grandes décisions et qui est représentée par des partis politiques de la majorité, de l'opposition, de la société civile et aussi de confession religieuse. Je rappelle même qu'en réalité, le travail qui est fait par la CENI l'est sous le contrôle étroit de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire des élus du peuple congolais. Je dis aussi que la Cour constitutionnelle constitue justement ce niveau de recours ultime pour rendre justice. C'est un pilier de la démocratie. Et donc, ce type de décision, des sanctions américaines qui sont prises, constituent finalement une négation de l'État congolais. Et aussi, c'est une façon, en réalité, de contester les résultats des élections présidentielles parce que les États-Unis n'ont pas eu vraisemblablement le candidat qu'ils souhaitaient imposer au peuple congolais. Et là, je rappelle la nécessité de la réaffirmation de l'indépendance et la souveraineté de la République démocratique du Congo.
Mais on a suivi Maître Georges Kapiamba qui estime qu'il faut faire la part de choses. Ce sont des actions, des sanctions ciblées, des personnalités ciblées qui sont accusées de corruption pour l'une ou l'autre cause et ça n'a rien à voir avec les résultats des élections.
Eh bien, je peux vous dire en tant qu'avocat international aguerri, j'ai eu moi-même à intervenir pour des clients multiples, que ce soit devant les institutions judiciaires pour des sanctions européennes. J'ai été il y a quelques mois aux États-Unis, à Washington, dans le Department of the Treasury, contre une décision américaine qui visait une personnalité congolaise. Je peux d'abord vous informer que heureusement que les États-Unis est un État de droit et que la séparation du pouvoir entre l'exécutif et le judiciaire est une réalité, de sorte qu'il a été démontré que la plupart des décisions qui sont ainsi prises, qui sont des décisions politiques, qui n'émanent pas d'une instance judiciaire américaine indépendante, les sont toujours prises régulièrement avec complaisance, c'est-à-dire sans aucun élément de preuve avéré. La plupart du temps, lorsque vous vous rendez aux États-Unis et que vous accédez au dossier, vous allez vous rendre compte que tout ce qu'ils ont, ce sont des allégations qui sont étayées uniquement par de rumeurs des articles de presse, des rapports des ONG dont l'objet social ne coïncide pas avec l'objet des rapports qui sont rendus. Et ma foi, il faut surtout ici rappeler que le véritable enjeu pour les Américains, c'est le code minier qui a été promulgué par le président Kabila et qui dérange parce que justement, ça remet en cause les intérêts économiques des puissances occidentales, de nombreuses firmes multinationales, alors que la population congolaise, à travers son parlement qui a voté justement cette loi portant nouveau code minier, leur transmet un message en disant « Vous êtes les bienvenus sur le territoire de la République démocratique du Congo, mais attention, le peuple congolais doit bénéficier en premier des richesses de son pays. Fini cette époque où vous veniez comme à la cueillette, puiser nos ressources, laissant la population congolaise s'appauvrir de plus en plus. »
Merci, donc, Maître Kirill. Merci, on vous redonne la parole tout à l'heure. Maître Georges Kapiambo va prendre aussi une réaction pour vous qui nous vient de Tshikapa.
Alex Eko de Tshikapa au Kasai. À mon avis, ces nouvelles sanctions sont une réponse à la situation actuelle en RDC. Et d'une part, faire pression sur la CENI, la Cour constitutionnelle, et d'autre part, sur les FCC. La Cour constitutionnelle et la CENI, vraisemblablement, pour les échéances électorales à venir, en vue d'obtenir plus de transparence aux élections. Et le FCC, comme famille politique du président Kabila, pour exprimer la volonté du gouvernement des États-Unis de voir le prochain gouvernement ne pas être dirigé par un classique de l'ancien régime.
Vous partagez ce point de vue, Maître Georges Kapiamba?
Bon, partiellement, mais je voudrais quand même ici faire un démenti. À mon avis, je ne pense pas qu'on puisse mettre en lien ces sanctions avec le code minier, quelles que soient les innovations qu'elle a apportées, parce que je voudrais dire à Maître Aimé Kilolo que pour nous qui sommes sur terrain, nous qui collectons les informations, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, si je prends le cas de la route Lubumbashi jusqu'à Kolwezi, si vous parcourez cette route, lui-même sûrement qu'il est passé par là, vous allez compter plus ou moins 5 à 6 points de péage. L'argent qui est collecté à tous ces niveaux sert à quoi? Est-ce qu'il sait dans quel état se trouve cette route? Il y a 2 jours, on a enregistré encore 2 autres accidents. Pourquoi? Parce que les gens qui avaient reçu l'argent pour travailler sur cette route avaient détourné l'importante partie de cet argent et on a fait une route qui aujourd'hui constitue pratiquement un danger pour les utilisateurs. Donc ce sont des actes de corruption qui existent. Et lorsqu'ils sont dénoncés par les ONG, par la presse, il s'est fait malheureusement qu'au niveau interne, les pouvoirs, ceux qui détiennent les pouvoirs ou qui l'ont détenu pendant encore quelques années en arrière, ont pris des dispositions pour affaiblir la justice, pour qu'ils ne puissent jamais rendre compte, qu'ils ne se fassent pas interpellés par la justice. Et qu'est-ce qui reste à ce peuple qui est clochardisé aujourd'hui à cause de ces actes? C'est de pouvoir trouver.
Donc, pour vous, la justice
moins
congolaise ne fonctionne pas.
Mais c'est comme le prof l'a dit. Comme le prof l'a dit, qu'est-ce qui devait être fait? Quelle devait être la réaction de la justice? C'était de publier un communiqué disant que nous allons ouvrir une enquête sur ces faits. Nous allons travailler dans le cadre de l'entraide judiciaire avec les États-Unis pour obtenir la communication des éléments à l'appui de ces accusations.
Peut-être qu'elle le fera. Mais c'est trop vite de juger la justice.
Mais c'est pas
congolaise.
La première fois. Il y a les sanctions qui ont été infligées aux autres 14 personnalités congolaises. Il n'y a jamais eu une seule enquête menée par la justice congolaise. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, il faut faire la part des choses. Il faut pas tout le temps qu'on nous ramène cette question des codes miniers qui, en réalité, n'a pas apporter en lui-même déjà le bonheur si, entre-temps, au niveau des institutions, on ne change pas les règles de jeu, les règles de gouvernance. Parce que les personnes qui vont utiliser ces codes miniers, si ce ne sont pas des personnes intègres, qui respectent les biens communs, les gens qui savent faire la différence entre les biens de l'État et leurs biens propres, les gens qui ont peur de s'enrichir sur le dos de la misère de la population, ce code minier ne pourra rien changer, ne pourra pas donner quelque chose au peuple congolais. Donc, il est vraiment anormal qu'on puisse faire cette confusion. Je termine par dire que aujourd'hui, tous nous sommes en train de suivre la manière dont les contentieux électoraux sont menés par la justice. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui font le monitoring, la surveillance, la manière dont les choses se font, qui détectent des actes, par exemple, de corruption, mais lorsque ces actes sont portés à la connaissance de ceux qui ont en charge le pouvoir de les traiter et sanctionner les auteurs, mais il n'y a pas de feedback. Et qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Il va y avoir comme ça tout un tas de choses qui vont s'accumuler et puis on va les amener à un autre niveau pour que des sanctions soient au moins prises contre ceux qui pensent être forts et qui bénéficient de l'autoprotection au niveau national.
Merci. Professeur Bob Kabamba, on a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Kikwita.
Oui, Ben Benoît Kabeyo, Kagambandundu. Je demande juste la prolongation de ces sanctions à d'autres unités de la RD Congo. Et juste, ces sanctions doivent être une façon de éveiller les dirigeants congolais à voir clair sur des impunités qui gangrènent notre pays. Et en plus, la CPI doit s'imprégner de cette situation. Et ça doit juste punir d'autres aussi unités par rapport à ce qu'ils sont en train de faire.
Professeur, il faut étendre ces sanctions à d'autres dignitaires, selon cet auditeur.
Oui, mais la question se pose justement par rapport à la justice congolaise. Comme la justice congolaise ne fait rien, comme la justice congolaise n'arrive pas dans toute une série de cas, alors ce qui veut dire que la plupart des cas ne vont pas se retrouver gérés et rendre la justice au niveau du Congo, vont pouvoir être ramenés à un autre niveau, qui pourrait être, par exemple, la Cour pénale internationale. Et ça, c'est malheureusement le mal que l'on a quand on parle, effectivement, de la justice la congolaise par rapport, justement, à la justice internationale. Il ne serait pas étonnant que dans les prochains jours, que nous apprenions que la Cour pénale internationale le procureur de la Cour pénale internationale va intenter un nouveau procès en RDC contre X, Y, à cause de toute une série d'événements, à cause de toute une série d'exactions qui ont été commises dans ce pays et pour lesquelles la justice congolaise a été n'a pas pu réagir. Je voulais juste encore revenir sur la question justement par rapport au code minier. Il est assez frappant de pouvoir mettre en lien le cadre électoral et le code minier, en sachant que si les Américains voulaient de manière claire sanctionner dans le cadre du code minier, je pense qu'il y a d'autres personnalités qui auraient dû être sanctionnées, notamment tous ceux qui ont été en charge du dossier du code minier, de la révision du code minier. Au départ, l'ancien ministre Kabouiloulou, qui a été ministre des mines, aurait dû être sanctionné si c'était le cas. Ça aurait dû être le cas. Les principaux dirigeants de la GECAMINE, le ministre des Finances, le ministre du Budget, voire même le directeur du cabinet, les chefs d'État qui ont été à la manœuvre dans le cadre de ce code minier. Et toutes ces personnes-là n'ont pas été sanctionnées si c'était pour essayer dans le cadre du code minier, alors qu'ici on ne parle pas du code minier, on parle de manière très claire, c'est lié au processus électoral. Et c'est lié de manière claire, si le communiqué est sans ambiguïté, c'est lié très clair à des cas de corruption dans les cadres du processus électoral. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les gens de la CENI à la Cour constitutionnelle ainsi qu'à l'Assemblée nationale se sont fait corrompre dans le cadre de ce processus. Et puis le communiqué insiste, il faut bien lire le communiqué, il insiste que c'est depuis 2016, ce n'est pas uniquement le cas actuel que l'on connaît lié au contentieux électoral et lié au processus électoral de ces derniers mois, mais c'est depuis 2016 que les États-Unis ont continué à observer tout ce qui est en train de se passer au niveau de la CENI et sont arrivés à la conclusion que ces autorités se sont enrichies sur le dos du processus électoral et de ce fait, comme la justice congolaise n'y réagit pas, alors les Américains, eux, y réagissent et on verra la même chose par rapport à la Cour pénale internationale. Comme la justice congolaise n'y réagit pas pratiquement à toute une série de choses, la Cour pénale internationale, par son procureur général, pourra se saisir d'une série d'autres faits qui pourraient subvenir dans les prochains jours. Et je pense aussi que ça peut être une leçon en termes de prévention. laissons quand même par rapport à tous ceux qui sont chargés de pouvoir commencer à gérer les biens de l'État, à se dire, ben oui, même si vous pensez que vous êtes dans un cadre de l'impunité, on vous observe quand même au niveau international, et lorsqu'on vous observe au niveau international, et lorsque vous êtes sanctionné, c'est votre crédibilité qui est mise en jeu, et la crédibilité, au-delà de vous, comme personnalité politique congolaise, mais c'est aussi la crédibilité du Congo en lui-même qui est mise à mal sur le plan international.
Merci, professeur. Maître Aimé Kilolo, au lieu de rejeter d'un revers de la main toutes ces accusations ou toutes ces sanctions, pourquoi la justice congolaise ne se saisit pas du dossier et enquêter pour voir si c'est vrai ou faux ce que le département d'État dit dans son communiqué?
Bien. Comme dans tout état de droit, la justice congolaise peut se saisir d'un dossier sur la base d'une dénonciation. Une dénonciation qui peut être faite par n'importe quel citoyen congolais. Bien entendu, ceci nécessite des éléments de preuve qui viennent à l'appui de ces allégations. Dès lors, lorsque l'on parle de corruption, mais qu'on n'apporte pas des éléments de preuve, qu'on ne dit pas qui a corrompu qui, combien d'argent ont été remis, quand, comment, dans quelle finalité. Eh bien, voilà, en fait, ce qui est fait aujourd'hui, finalement, par les États-Unis, mais c'est la justice de Guantanamo. Ce sont des pratiques arbitraires qui ne sont pas acceptables.
Vous pensez que le département d'État ne détient pas des preuves?
Eh bien, je peux vous dire d'expérience, dans ce type de dossier que j'ai eu à traiter personnellement, où j'étais en contact avec le département d'État, avec le département du Trésor américain, en leur demandant des éléments de preuve, la seule réponse qu'ils vous fournissent, ils vous disent, ce sont des preuves confidentielles qu'on ne peut pas mettre à votre disposition, vous contentez-vous du résumé des accusations qui sont formulées par médias interposés et sur cette base apporter vos justifications. Et donc on renverse même le principe de la charge de la preuve qui incombe à la personne qui impute. Et donc on se retrouve d'un point de vue juridique, mais dans une situation où les auteurs matériels de ces actes d'imputation dommageable à la personne d'autrui peuvent se voir effectivement attrait devant la justice congolaise ou américaine pour réparer le préjudice causé à la réputation et à la dignité d'autrui en imputant des faits sans jamais apporter le moindre élément de preuve. C'est du jamais vu, c'est inacceptable.
Merci.
Et surtout, j'insiste,
concluez,
ça ne provient pas de la justice américaine, ça provient des autorités politiques qui ne sont pas là au niveau des États-Unis pour défendre les intérêts du peuple congolais, mais pour défendre les objectifs économiques américains.
Merci, Maître Aimé Kilolo. Maître Georges Kapiamba, votre conclusion.
Alors, ma conclusion, elle est toute simple. J'ai dit, nous saluons encore une fois ces sanctions. C'est un signal pour tous les dirigeants congolais qui doivent savoir que s'ils savent s'organiser au niveau interne pour s'auto-protéger, comme nous l'avons vécu pendant les dernières 18 années de pouvoir, ils doivent savoir qu'à un certain moment, la communauté internationale ne pourra jamais les laisser continuer dans ce genre de comportement qui avilisse le peuple congolais. Et j'ai dit, je voudrais dire à Maître Kilolo, il trouve normal qu'un responsable politique puisse se vanter, par exemple, dans un élément sonore, d'avoir favorisé la création des partis satellites par lesquels ils ont pensé s'accaparer du pouvoir politique et le pouvoir financier. Et ce genre d'actes ne doivent pas faire l'objet d'enquêtes, moins encore de sanctions, lorsque la justice n'agit pas. Et lorsque la justice est appelée à traiter les contentieux électoraux et qu'il y a des pressions sur cette justice, et si au niveau national on ne sanctionne pas, c'est tout à fait normal que les gens soient sanctionnés au niveau international.
Merci, Maître Georges Kapiamba. Professeur Bob Kabamba, votre conclusion?
Ben, ceux qui en sont accusés, ceux qui sont sanctionnés par les Américains, par le département d'État, puisse saisir justement la justice congolaise et que la justice congolaise saisisse la justice américaine pour que la justice américaine demande à l'administration Trump de lui fournir les preuves de corruption. Si elle a des preuves de corruption ou s'il n'y en a pas, ainsi ces personnes pourraient être innocentées. Si elles ne font pas cette démarche, eh bien, elles resteront sanctionnées.
Merci professeur, c'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.